Les cours du Collège de France, Yvon Madé, chaire informatique et sciences numériques.
Monsieur le directeur général délégué à la séance d'INRIA, cher Jean-Frédéric Gerbeau, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, cher Yvon Madé. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir ici au Collège de France, ou alors derrière vos écrans, pour une nouvelle édition de la chaire annuelle informatique et sciences numériques. C'est une chaire qui a été créée en 2009, ça fait déjà un petit moment, en partenariat avec INRIA. Et cette chaire marque une volonté commune de faire valoir l'importance de cette discipline scientifique. INRIA est un institut national de recherche en sciences et technologies du numérique et a la responsabilité depuis janvier 2024 de l'Agence des programmes numériques, algorithmes, logiciels et usages pour renforcer le dynamique collectif de l'enseignement supérieur et de la recherche. INRIA soutient la diversité des voies de l'innovation, de l'édition open source de logiciels à la création de start-up technologiques et se caractérise par la volonté de rapprocher la recherche et le monde industriel. Cette année, les responsables de la chaire informatique et sciences numériques, et je voudrais saluer et remercier Xavier Leroy, qui est très engagé dans toujours trouver la bonne personne pour cette chaire. Cette année, les responsables ont décidé de mettre à l'honneur des mathématiques appliquées, ici notamment dans le cadre de la simulation numérique, qui repose d'abord sur des modèles mathématiques. Mais ces modèles, et je suis le premier à le dire, sont souvent trop complexes, même pour des très grandes puissances de calcul, et la complexité devient quasi impossible à gérer. D'ailleurs, déjà, le livre biblique des Proverbes appelle au bon sens et à la simplicité face à la complexité des choses. C'est bien vrai. Pour gérer l'explosion des calculs mathématiques, il faut introduire des méthodes de réduction et de complexité. Inspirée de la théorie de l'approximation et de l'analyse numérique, elle consiste à choisir un petit nombre d'images de haute qualité déjà simulées et à les combiner pour en générer de nouvelles. Mais pour en garantir la fiabilité, les estimations d'erreur, branche de l'analyse numérique, quantifient la précision du résultat et guident dans l'amélioration du modèle ou l'enrichissement de la base réduite. Pour nous guider cette année à travers ce défi de réduction de la complexité, nous avons la grande chance de pouvoir accueillir ici au Collège de France Yvon Madé, que je voudrais vous présenter brièvement. Yvon Madé a soutenu sa thèse de doctorat à l'université Pierre et Marie Curie. Il a exercé de nombreuses responsabilités scientifiques et dirigé l'Institut Carnot, dédié aux échanges entre recherche académique et monde industriel. Il est professeur de mathématiques appliquées à Sorbonne Université et membre du laboratoire Jacques-Louis Lyons, qu'il a dirigé pendant plusieurs années. Il a également été professeur invité à Brown University, à Providence, aux États-Unis, pendant plus de 15 ans. Spécialiste de l'analyse numérique, ses recherches portent sur le calcul scientifique de haute performance, les méthodes de décomposition des domaines et la réduction des modèles. Il applique ses approches à des domaines variés, de la mécanique des fluides à la biologie, à la médecine, avec un intérêt actuel marqué pour la chimie computationnelle, dans laquelle il est co-principal investigateur d'un projet Synergie ERC. Engagé dans l'innovation interdisciplinaire, il est cofondateur du GIS Aubépine, consacré à la surveillance épidémiologique par des eaux usées. Membre honoraire senior de l'Institut Université de France, il a reçu en 2009 le Grand Prix thématique Jacques-Louis Lyons de l'Académie des sciences. En 2019, le prix ICAM Pioneer, je pense que ça se prononce à l'anglaise, pour l'ensemble de ses contributions en mathématiques appliquées. Et en 2025, l'Académie des sciences lui a décerné la médaille de la section des sciences mécaniques et informatiques. Il est l'auteur de nombreuses publications, et il a encadré plusieurs générations de jeunes chercheurs. Et j'étais impressionné. Vous avez suivi une soixantaine de thésards. C'est quand même... faut s'y mettre. Voilà. Cher Yvon Madé, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Collège de France. Et je vous donne la parole pour votre leçon inaugurale. Merci.
Bonsoir toutes et tous. Je vous remercie, cher Thomas Romer, pour cette introduction, mais aussi pour m'accueillir dans cette maison en votre qualité d'administrateur du Collège de France. Je suis évidemment très ému et profondément honoré d'être invité à présenter ces leçons sur la réduction de complexité dans un lieu aussi prestigieux. Même dans mes songes les plus improbables, je n'aurais pas imaginé qu'une telle proposition puisse m'être faite. Et je voudrais donc remercier Xavier Leroy de m'avoir contacté, ainsi que Pierre-Louis Lion et Stéphane Malat pour avoir tous les trois présenté et soutenu ma candidature à cette chaire annuelle. Je me souviens, au début de ma thèse, j'assistais régulièrement aux cours et aux séminaires que Jacques-Louis Lion donnait alors au Collège de France. C'était un moment hors du temps, un endroit qui me semblait aussi en dehors et au-dessus de toute norme. J'avais eu l'honneur d'y être invité à prendre la parole en début de carrière. C'était hier. Cette invitation a été renouvelée plus récemment dans le cadre du séminaire de la chaire de Pierre-Louis Lion dans le même Collège de France. Ces moments constituaient déjà, à mes yeux, des marques de reconnaissance pour mon travail, ou plutôt pour le travail d'équipe, les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler longtemps, ou parfois plus brièvement, ainsi que les post-doctorants et les doctorants, tous les doctorants, que j'ai eu la chance d'accompagner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux et je tiens à les associer à l'honneur qui m'est ainsi fait. Enfin, je voudrais rappeler que cette chaire, qui a été créée, comme il a été dit tout à l'heure, en partenariat avec INRIA, a pour objet de faire connaître et de mettre en valeur l'importance de la discipline informatique et des sciences numériques, plus exactement des sciences numériques dans mon cas, dans le cadre de l'innovation technologique et de la prise de risque entrepreneuriale. J'ai une profonde affinité pour cet institut que j'ai eu l'honneur, invité par Antoine Petit, de présider la commission d'évaluation, ainsi que participer au conseil d'administration. Je remercie donc Bruno Sportis, son président directeur général, et Jean-Frédéric Gerbeau, son directeur général délégué à la science, pour m'avoir invité à participer à nouveau au CA pendant leur mandature et y défendre les idées que j'avais sur l'avenir de l'Institut, d'avoir renouvelé ainsi le contrat aussi avec le Collège de France portant la chaire que j'occupe cette année. Je vais maintenant pouvoir commencer. Voilà, donc, ce dont je vais parler, c'est de réduire la complexité aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre la partie mathématique. Et ça sera suivi ensuite de 8 leçons qui vont commencer la semaine prochaine sur la réduction de complexité pour la simulation numérique, présenter les méthodes, les algorithmes, l'analyse numérique associée. Alors, il arrive parfois qu'on présente avec humour les mathématiques comme une science des dinosaures. Lorsqu'on évoque notre métier, il n'est pas rare de sentir un certain malaise. Bon, je vous rassure, nous ne sommes pas là en train de refaire vivre la chaire de biologie historique et d'évolutionnisme de Armand de Riclès. Beaucoup de personnes, quand on leur dit qu'on évoque notre métier, évoquent un certain malaise. Leur expérience scolaire en mathématiques, expérience qui a souvent été difficile, et finissent par poser la question « Mais y a-t-il des choses nouvelles à découvrir en mathématiques ?» reflétant bien l'idée de science de dinosaures que beaucoup de personnes ont en tête. Alors, je vais tenter un peu d'aller à contre-courant, de partir du monde très actuel où surgissent chaque jour de nouveaux objets d'études. La question n'est pas simplement d'écrire des équations et de les résoudre, à la manière d'Ian Malcolm lorsqu'il parle du chaos, de réduire la complexité pour simuler, optimiser, de contrôler, tout en restant lucide sur les approximations que nous faisons et sur la portée des conclusions que nous en tirons. Cette leçon inaugurale, bien sûr, va me permettre de présenter le cours que je donnerai dans les prochaines semaines, mais je voudrais aussi, car je pense que vous n'avez peut-être pas tous l'intention de participer à ces cours, vous faire sentir ma façon de vivre les mathématiques, comment naissent les intuitions et ce mélange de rigueur et de paris raisonnés qui les accompagnent. Un sentiment que je sais d'ailleurs partagé par beaucoup de mes collègues. Dans le domaine spécifique des mathématiques appliquées où je travaille, domaine qui s'appelle la modélisation mathématique et la simulation numérique de phénomènes réels, nous nous appuyons fortement sur la notion de données pour décrire et caractériser les phénomènes observés. En effet, la simulation de phénomènes réels exige de rester au plus près des comportements observés et que l'on souhaite reproduire. On doit donc comparer les résultats numériques aux mesures, les données constituant la référence indispensable. Les phénomènes étudiés peuvent relever de divers domaines variés. On peut en penser à la mécanique avec la thermique et l'hydraulique. On peut penser à la médecine avec la cardiologie ou la chirurgie assistée par ordinateur. La physique allant de l'électricité à l'étude des trous noirs. La biologie avec la dynamique des populations ainsi que la propagation des épidémies, dont on verra un exemple tout à l'heure sur le SARS-CoV-2. La chimie avec la propriété des matériaux et la réactivité entre composants, ou encore les sciences humaines, les SHS, avec le comportement des foules, la dynamique des opinions, voire les mécanismes d'influence et des manipulations amplifiées par les réseaux sociaux. Dans tous ces domaines, il y a des données. Ces données sont associées à des mesures sur des quantités d'intérêts associés. Parmi celles-là, on peut penser évidemment à la température, la vitesse, la pression, l'intensité ou la tension électrique, que l'on sait pouvoir mesurer directement. On a des instruments pour ça. On a le thermomètre pour mesurer la température, on a le compteur sur la voiture ou éventuellement le radar des gendarmes pour la vitesse, on a le baromètre, mais il y a aussi des quantités moins classiques comme des affinités liaison, ligand, récepteur ou des indices de solvatation ou des modules Young. Je vous rassure, vous n'en avez peut-être pas besoin tous les jours non plus. Le résultat d'une mesure en un point peut être un nombre, une valeur unique, comme c'est le cas pour la température ou la pression, ou ça peut être plusieurs nombres. Pour les vitesses, il s'agit de trois nombres, parce qu'en plus de l'intensité, il y a la direction, et pour cette direction, on a besoin de deux valeurs supplémentaires. Si on cherche à connaître ces valeurs, disons la température, et disons plus explicitement la température dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre, ça va être pour assurer un confort raisonnable pendant cette leçon inaugurale. Dehors, il fait peut-être quelque chose comme 10 degrés. Dans l'amphithéâtre, il doit faire environ 19 degrés en ce moment. Mais il est évident qu'il ne fait pas partout 19 degrés. Hein. Il fait peut-être 18 degrés près de la porte là-bas qui a été ouverte et peut-être 20 degrés là-bas en hauteur. 19 degrés, c'est une valeur moyenne, c'est un objectif, mais on voudrait quand même une certaine uniformité dans ce cadre précis. C'est évidemment le contraire si on s'intéresse, par exemple, à un profil de température dans un four de laminoir où, à l'entrée, il fait 20 degrés et à la sortie, environ 1300 degrés. Ou alors dans un four de verrier où, au contraire, la température va décroître de l'entrée où on doit maintenir la température pour faire fondre tous les ingrédients, environ 1600 degrés, jusqu'à la sortie où le verre doit être une température compatible avec le façonnage, environ 500 à 600 degrés. Il y a des experts dans la salle, j'espère que mes chiffres ne sont pas trop mauvais. Alors, pour rester simple, au début de cet exposé, restons en dimension 1 et prenons cette règle que nous allons chauffer à une extrémité et dont la température va se lever petit à petit pour arriver à un équilibre au bout d'un certain temps. Alors, on la voit augmenter, voilà, c'est la représentation que j'ai voulu refaire. Alors, on peut essayer de la mesurer en chaque point, et on va sans doute obtenir une courbe qui ressemblera à celle-là. Voilà, donc ça c'est la première notion que vous devez pouvoir comprendre. La deuxième notion, c'est on va passer d'une barre à une plaque constituée de certains matériaux qu'on va chauffer avec deux petites bougies en dessous, là, en dessous des points rouges. Et là, on peut avoir avec cette représentation une idée de la surface des températures prises en chacun des points. Alors, une remarque importante à faire à ce stade, c'est que la température, mais c'est vrai généralement pour n'importe quelle donnée, est fortement dépendante de ce qui se passe à côté et de ce qui s'est passé aussi précédemment dans ce problème qui dépend du temps. Donc il y a une notion d'interdépendance qui est importante et qu'il va falloir garder en tête pour la modélisation. Alors, il n'empêche que avec un thermomètre, on pourrait prendre chacun la température qui se trouve à notre place. Alors, si on voulait représenter cela ensuite pour avoir une idée de comment ça se passe, c'est un peu compliqué parce que faire des représentations tridimensionnelles pour un objet tridimensionnel, c'est compliqué. Et donc, on va essayer de simplifier les choses et s'intéresser simplement à la température au niveau de votre tête. On ne va pas mesurer ce qu'il y a à 2 à 5 mètres plus haut. Et donc, on va se représenter la température en chacun des points correspondant à chacune des places. Comme pour l'exemple précédent de la plaque, il va falloir représenter donc la surface de température au-dessus de la surface des gradins. Et là, on a un outil qui a été donné par les géographes, qui est les cartes de géographie, où ici, on n'a pas simplement les voies tracées pour aller d'un point A, disons de la complexité vers la modélisation ou le contrôle, mais on peut voir aussi des lignes de niveau. Alors ces lignes de niveau, c'est un élément important qui nous permet de comprendre, de représenter sur une carte les chemins virtuels qui sont tous à la même altitude. Bien pratique quand on est à pied ou quand on est en vélo non électrique. Ainsi, quand les lignes de niveau se resserrent, il va y avoir une forte variation du relief, de la pente. Par contre, dans une plaine ou un plateau, les lignes de niveau sont très espacées. On peut donc utiliser cette même représentation pour représenter la carte des températures au niveau de cet amphi, avec au niveau des personnes dans la salle. Alors, je ne vous ai pas fait, là, parce que j'ai demandé à ChatGTP de me faire la reconstruction de cet amphithéâtre, ce qui est, de mon point de vue, pas mal. Et on a la carte des températures, et si on veut la représenter avec des lignes de niveau, ben voilà à peu près ce que ça se donne. Cette culture des courbes et des surfaces, quand on est en dimension 2 ou même en dimension supérieure, c'est un des nombreux éléments qu'on apprend à maîtriser quand on fait des mathématiques. On cultive ces notions, on voit les courbes, ces surfaces en dimension quelconque, on aime jouer avec. On voit, on les ressent, on les vit. D'ailleurs, regardez cette illustration que j'ai prise d'un exposé d'Albert Cohen. Quand le tableau ne suffit pas, Albert se met à faire marcher ses mains pour nous montrer les surfaces. Je le trouve particulièrement expressif à ce sujet quand on travaille avec lui. C'est quelque chose qui est assez remarquable. Il joint le geste à la parole. Et on comprend que les courbes, les surfaces ont une réelle expérience dans notre cerveau, dans notre tête, et j'aimerais que vous, petit à petit, ça perfuse chez vous. Ça peut en fait ressembler un petit peu à une sorte de danse. Cette danse qui peut inciter les plus jeunes dans la salle qui aimeraient faire des maths et de la danse, c'est tout à fait possible. Ça me fait aussi penser à cette initiative portée par Lara Thomas au CNRS qui s'appelle Danse tes maths. Donc je vais essayer de vous entraîner dans ce petit jeu conceptuel, ce petit jeu mathématique au cours de cette leçon, pour illustrer des surfaces qu'on appelle des variétés, dès qu'on a posé quelques définitions pour ne pas faire n'importe quoi. On ne veut pas de gribouillis, des gribouillis comme ça ou des gribouillis comme ça, ce n'est pas accepté. Ces courbes et ces surfaces vont se déformer avec des paramètres qui vont varier. On a vu sur la règle que selon la position de la source de la chaleur, on peut faire varier la température en chaque point. Cette courbe de température pourrait aussi varier selon la composition de la règle. Si elle est en métal, si elle était en carbone ou en bois, à condition qu'on ne mette pas la bougie trop près. Alors, je vais considérer cette première règle que j'ai chauffée avec la courbe de température au-dessus. Et puis, je vais bouger la bougie, je vais prendre une deuxième règle et je vais la mettre au milieu. D'accord ? Et je vais prendre une troisième expérience dans laquelle, d'une troisième règle, j'ai mis la bougie dans la première position et dans la deuxième position en même temps. Alors, on peut remarquer que déjà les courbes se ressemblent un petit peu, c'est haut au-dessus de la surface qui chauffe, et plus bas par la suite. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, et qu'on peut démontrer, c'est que la deuxième est la somme de la première et de la deuxième solution. Donc la troisième possibilité, avec les deux bougies, est la somme des deux premières occurrences, parce qu'on est dans un cadre linéaire, et que ça marche bien, et que de ce fait, on peut donc ajouter des courbes. On peut ajouter non simplement des nombres, comme on l'a fait depuis qu'on est tout petit, mais on peut aussi ajouter des courbes. Alors prenons maintenant cette grosse bougie qui a deux flammes, un peu séparées pour qu'on puisse les considérer comme distinctes. Et donc vous avez compris, je peux obtenir la surface au-dessus de cette règle en ajoutant une fois le chauffage à gauche et deux fois le chauffage du milieu. D'accord ? Donc on peut aussi essayer de deviner quelle va être la température si je chauffe à ce niveau-là. Bon, je ramasse les copies à la fin de l'exposé. Alors maintenant, on va s'amuser encore un peu avec ces courbes et ces surfaces. Pour cela, je vais parler avec un exemple qui va parler à beaucoup. Regardons cette coupe de bois. Ça, c'est la première, c'est une coupe d'érable. Et pour la seconde, c'est un résineux, c'est du pain. On voit bien les veines du bois, on voit le grain. C'est d'ailleurs ce qui permet de les reconnaître, en plus de l'odeur éventuellement, comme dans l'atelier de menuiserie que mon père avait installé pour sa retraite. Permettez-moi à ce stade de m'arrêter un instant pour dire que je n'oublie pas l'essentiel. Si je suis ici ce soir, c'est d'abord grâce à mes parents. Bon, c'était pas prévu ça. Qui m'ont transmis une éducation solide et le goût de l'éveil. C'est aussi grâce à mon épouse Annick, dont le soutien indéfectible a accompagné chaque étape de cette carrière, appelée bientôt à prendre un nouveau tournant, et avec qui j'ai très envie de vivre encore plein d'autres découvertes. Bon, mais revenons aux veines du bois sans rester plus longtemps dans l'atelier de mon père. Ces veines marquent l'histoire du bois et chacune d'elles est un échantillon de ce qui s'est passé en volume, donc en trois dimensions. De ce qu'a pu vivre l'arbre lors de sa croissance. En tout cas, c'est un bon terrain de jeu pour comprendre que ces veines, ces courbes sont cohérentes pour une famille d'arbres donnés, soit de l'érable, soit du pin. On remarque que ces veines ont à peu près toutes la même forme. Et à regarder d'un peu plus près, on peut même se dire, comme on l'a fait avec les températures tout à l'heure, qu'on pourrait peut-être en combiner deux ou trois pour faire les autres. Regardez, par exemple, si je choisis cette première ici, qui me semble particulièrement plate, et celle-là, qui me semble beaucoup plus marquée, ben j'ai bien envie d'essayer de voir si celle-là ne pourrait pas être recomposée comme une combinaison de ces deux-là. Alors pour faire ça, je vais les isoler, je vais enlever le mot pin, et puis je vais rajouter des axes, et je vais appeler V1 et V2 les deux courbes que j'ai initialement isolées, et je vais essayer de faire des calculs. Et alors, il apparaît que cette courbe verte, la troisième que je veux représenter en termes de V1 et V2, eh bien, peut effectivement s'exprimer, et c'est la courbe mauve qui apparaît là, qui est la somme des 0,4369 V1 plus 0,9016 V2. En fait, on peut certainement arrondir à 0,4 V1 plus 0,9 V2. On obtient quand même, il faut quand même ajuster le niveau pour que la courbe rose soit bien au même niveau que la courbe verte. Et vous voyez qu'en faisant varier ces coefficients, j'ai pu faire ce calcul.
C'est tombé, ça, c'est pas terrible.
Voilà. Alors, vous aurez bien remarqué aussi que j'ai pris deux courbes extrêmes, c'est-à-dire celle qui se ressemble le moins, la plus plate et la plus courbée. Et si je veux améliorer l'approximation, eh ben, il va falloir que j'en prenne une troisième. Une troisième, et celle qui semblera naturelle de choisir, c'est celle qui sera le moins bien représentée par cette approximation des deux premières que j'ai mises. Et c'est ce qu'on appelle en fait un algorithme, c'est l'algorithme Bruidi qui nous dit que la courbe qu'on va ajouter en plus, c'est justement celle qui est le moins bien approchée par le processus que j'ai précédemment défini. Alors, ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que j'ai montré que en valeur, en certains points, présenté par les petits pointillés là, 0,15 multiplié par 0,9 plus 0,9 multiplié par 0,4 donne 0,53. Donc là, j'ajoute des valeurs. Ce que montre ce dessin, c'est que en ajoutant des courbes, on obtient point par point, en tous les points, une très bonne approximation. Alors, ce qu'on a fait pour le pin, on aurait pu le faire pour un autre bois. Donc, pour illustrer le fait qu'on travaille avec des choses de même nature, on peut regarder cette image de chêne où on voit effectivement que... Alors, on va peut-être pas prendre le même repère. On va peut-être prendre un repère qui va être centré au nœud du bois ici. Mais on voit aussi que les veines ne sont pas du tout de la même nature. Les veines sont beaucoup plus oscillantes ici. Il y a deux structures. Il y a une structure macroscopique et une structure microscopique. Bon. Il n'empêche qu'on peut revenir aussi à la diapositive titre hein, où quand on voit des ondes partout, eh bien, on peut penser à la réduction de complexité, sortir de toutes ces vagues quelque chose qui pourrait servir pour les approcher. On peut voir aussi ce qui peut se passer dans les embranchements supérieure des bronches du poumon, où on, si on regarde les écoulements d'air dans ces branches de poumon, on peut avoir des similitudes. C'était des choses que on avait. Merci. C'est des choses qu'on avait travaillées à l'intérieur d'un projet qu'on avait intitulé « Le poumon, vous dis-je ». Alors, maintenant, vous commencez peut-être à voir ces courbes, ces surfaces, et à les imaginer en dimension supérieure. On va essayer de voir comment on peut les construire de façon précise. Et là, ça n'est pas aussi simple qu'on peut le penser, parce que c'est la différence entre la théorie et la pratique. L'intendance ne suit toujours pas. On n'a en effet jamais accès aux valeurs en chacun des points de la règle. C'est à peu près évident. On se voit mal obtenir une infinité de valeurs. Donc il va falloir se résoudre, on ne va pas mesurer partout, on va mesurer en quelques points. Et attention, il se peut même que dans certains cadres, tous les points ne soient pas accessibles. Pour reconstruire la courbe de température, il y a là-dessous des concepts mathématiques puissants traitant du passage entre fini, infini, dénombrable, infini, continu. On peut envisager mesurer en un point, en deux points, en 10 points, en 100, peut-être même en 1000, mais ça prend du temps et c'est coûteux. Et pour le cas de figure, c'est sûrement inutile. Regardons un petit peu ce qui se passe pour la règle que j'avais chauffée là. Alors, j'ai parlé un petit peu plus haut de variété, c'est pour éviter les gribouillis. Et donc, je vais prendre quelques points de température que je vais augmenter un petit peu et que je vais en isoler deux. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai dit que les choses n'étaient pas des gribouillis. Alors, je ne vais pas faire un truc comme ça, mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc, pour joindre point par point, entre deux points de température, eh bien, je vais faire quelque chose de régulier comme ça dans un premier temps. Voilà ce qui est donné. Donc, je pense que ce type de concept pour remplir les trous n'est pas totalement nouveau pour vous. Tout le monde connaît en effet cette occupation pour les enfants. Elle part de la donnée d'un ensemble de points, ici 37, et il va s'agir de, vous avez compris, de les relier entre eux. On met en plus des numéros pour coupler cette activité à un exercice de sériation numérique. Et voilà ce que ça donne. Tada, un poisson. Bon, si on reconnaît bien le profil du poisson, il faudra sans doute un peu plus de points pour que le profil soit plus régulier et surtout lui donner un peu plus de consistance. Afin de mieux l'identifier, on va déjà ajouter des détails, rajouter peut-être une bouche et des nageoires. Et voilà. Alors ça, c'est un zancle cornu. Bon, c'est certes un poisson plat, mais là, il est vraiment très très plat. Pour lui donner vie, pour bien le représenter, il faudrait le dessiner en dimension 3, et pas sur une feuille de papier comme c'est là ou comme sur un écran. Et d'habitude, pour ce genre d'exercice, c'est ce qu'on utilise. En fait, l'idée est la même, on va rajouter des points et on va joindre ces points pour en faire un maillage. Alors ces points sont de nature différente puisqu'il y en a des plus clairs, ça veut dire qu'ils sont plus près de vous. Donc c'est pour essayer d'imaginer un petit peu ces courbes-là. Alors comme j'ai dit, on va rejoindre tous ces points-là pour faire maintenant un maillage, pour essayer de voir des lignes de niveau. Alors ces mailles qui sont là, on peut considérer que c'est des écailles. Alors il faut bien faire travailler son cerveau. Hein. La construction du maillage est quelque chose d'un peu compliqué. Et donc il faut voir les mailles qui sont vers nous. Bon, on a du mal quand même. Et donc même si on essaie de voir ces facettes comme des écailles, il faut s'adjoindre des compétences complémentaires pour pouvoir représenter ça vraiment en dimension D, en dimension 3 et lui donner la vie. Et donc on peut s'adjoindre un graphiste qui va raffiner le maillage et donner des couleurs pour donner vie à ce poisson. On l'a reproduit par symétrie. Et en fait, le graphiste est devenu spécialiste de l'animation. Et donc, il a fait vivre un petit peu comme Gepetto a pu le faire. On a donné vie à notre poisson. Bon, revenons sérieux. Nous sommes tout de même au Collège de France et il est temps de poser la question. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces données? Alors, il s'agit de comprendre ce qui se passe, identifier les moyens d'action sur les systèmes, optimiser ou contrôler les résultats. C'est-à-dire agir de façon guidée pour améliorer une performance. Alors, comprendre, mesurer, c'est un peu passif. Déjà, identifier les moyens d'action, on commence à agir, à essayer de vouloir agir sur le système, essayer d'identifier quels sont les éléments qui gouvernent le comportement, établir les relations causales entre les données d'intérêt. Optimiser et contrôler, c'est faire mieux, voire le mieux possible pour améliorer une performance. Ce problème est facile à comprendre, mais peut être très difficile à atteindre. Donnons quelques exemples d'optimisation. Par exemple, on sait que la ligne droite est le plus court chemin, donc le plus rapide pour aller d'un point A à un point B. Mais bon, ça peut parfois être un peu compliqué à faire. Par exemple, quand on veut aller d'une bouée A à une bouée B en remontant le vent, on ne peut pas y aller en ligne droite, hein. Il faut tirer des bords. On peut aussi regarder en ligne droite les trajectoires d'avions transatlantiques. Et parce que la Terre n'est pas plate, n'en déplaise à certains, voilà les trajectoires les plus courtes pour aller d'un point A à un point B. Alors, si on les regarde différemment, sous le bon angle, on a la notion d'orthodromie et de loxodromie, et quand on se met vraiment dans un plan qui passe par le centre et passe par les deux points A et B, on voit réellement que l'orthodromie est la plus courte des distances, et la loxodromie, c'est généralement ce qui est pris pour les bateaux, puisque ça leur permet de préserver le cap, puisque l'angle est constant avec tous les méridiens. Alors, un autre exemple d'optimisation qu'on retrouve dans l'histoire, c'est l'idée de Didon de découper la peau du taureau pour déterminer le plus grand terrain que le chef de tribu berbère, Hierbas, voulait bien lui donner. On voit là ces acolytes qui déploient les bandes du taureau pour d'une forme circulaire, le cercle étant la forme optimale pour avoir le plus grand terrain avec un périmètre donné. Bon, ce sont des problèmes mathématiques, mais ce ne sont sans doute pas les problèmes sur lesquels on s'intéresse le plus. Alors, on a parlé tout à l'heure du cap pour les bateaux. En fait, pour la voile, par exemple, il y a quand même des choses à faire. Et là, j'en réfère à ce sur quoi a travaillé mon collègue et ami Elfio Quarteroni en participant à l'optimisation de la Coupe de l'América. On peut aussi présenter, pour le sport en général, ce livre qu'Amandine Aftalion a fait, sur lequel elle nous a fait un exposé brillant quand elle est venue il y a quelques semaines à Morlaix. Bon, revenons aux exemples qui nous ont plus occupés. Personnellement, j'ai travaillé, comme Thomas Romer l'a indiqué, sur des domaines assez variés. Il y a par exemple les problèmes dans le cadre du projet Synergie ERC EMC2 que je copilote avec Eric Cancès, Laura Grégory et Jean-Philippe Piquemal. Ces problèmes dans chimie computationnelle où on essaie de comprendre et maîtriser le comportement fin des matériaux. Ce qui se passe quand plusieurs molécules partagent un même lieu, notamment pour modéliser des interactions protéines-ligands, comprendre l'affinité, accélérer la découverte de médicaments et même envisager l'objectif de passer au problème inverse, c'est-à-dire spécifier une propriété désirée et retrouver la structure ou la composition qui la réalise. Il y a aussi des problèmes sur lesquels nous aurons l'occasion de réfléchir lors du séminaire que j'ai proposé d'organiser en accompagnement des cours que je vais donner à partir de la semaine prochaine. Ces exposés seront tous présentés par des industriels et porteront sur des notions de mathématiques appliquées nécessaires pour répondre à des questions évoquées ci-dessus. Comment les mathématiques ont permis de les aborder, ce qui a été acquis, ce qui reste à faire. J'ai donné à ce cycle le titre imagé de Math for Innovation en tirant le parti de la liberté académique qui m'est donnée dans le cadre de cette chaire pour souligner le lien profond qui doit exister entre l'invention, en particulier en mathématiques, et l'innovation. Je m'inscris ainsi et je revendique l'élan porté en particulier par l'INRIA et la SMAI, Société de mathématiques appliquées industrielles, et je salue à cette occasion l'apport fondamental de nos prédécesseurs, que j'aimerais rappeler maintenant. En France, les relations entre mathématiques académiques et mathématiques industrielles se sont consolidées étape par étape, d'abord autour de besoins très concrets de modélisation, de calcul et de décision dans les grands organismes techniques de l'après-guerre. Un jalon emblématique est la mise en place dès 1960 des écoles d'été CEA-EDF, qui sont devenues maintenant CEA-EDF-INRIA, en analyse numérique et qui ont servi de point de rencontre entre les universitaires et les ingénieurs et ont contribué à faire émerger une culture commune du calcul scientifique. Dans la même galaxie intellectuelle que des acteurs comme Jean Céa et plus tard des communautés d'éléments finis et des équations aux dérivées partielles. Dans le même mouvement, l'État structure les capacités nationales via le plan calcul et la création de l'IRIA, qui deviendra ensuite INRIA, créée en 1967. Cet environnement institutionnel devient un accélérateur de transfert en donnant un cadre durable à des programmes où l'on passe sans cesse des équations au code et des codes aux applications. C'est dans ce type d'écosystème que s'inscrit une figure comme Jacques-Louis Lyons et que se renforcent des trajectoires scientifiques très interfaces qui nourrissent ensuite la structuration nationale des maths appliquées. Dans les années 1970, ces interactions s'organisent aussi par le bas, via des réseaux d'ingénieurs numériciens. Le GAMNI naît en 1974 et illustre cette structuration autour des méthodes numériques de l'ingénieur avec des personnalités repères comme Elie Apsi et Roland Glowinski. Et une proximité naturelle avec les sciences de l'ingénieur où on peut citer par exemple Paul Germain comme figure de passerelle. Enfin, au début des années 1980, la création de la SMAI, en 1983 plus précisément, vient fédérer et rendre plus visible cet ensemble autour de fondateurs, animateurs, issus du calcul scientifique et des équations aux dérivées partielles, comme Pierre-Arnaud Raviard, Jean-Claude Nédélec et Roger Temam. La société offre un cadre national pour faire dialoguer les laboratoires, les grands organismes et industries, tout en cohabitant avec une autre filière déjà active de l'interface, maths en interaction avec les entreprises, la recherche opérationnelle et aide à la décision, en particulier avec les travaux pionniers de Robert Faure. Parmi les sujets traités dans le cadre du séminaire Math for Innovation, les industriels que j'ai invités vont parler de prédiction de la durée de vie d'aubes de turbines haute pression et de l'analyse thermique de compresseurs haute pression. La création de jumeaux numériques pour des systèmes grands et complexes, actifs industriels, énergie, offshore, dans le périmètre performance, prévention des risques industriels du parc nucléaire et aussi pour l'analyse des contraintes résiduelles de soudage. Ils vont parler aussi de création de jumeaux numériques actionnables avec des cas d'usage typiques en thermomécanique et en ingénierie système, et aussi la modélisation mécanique et acoustique du système ferroviaire pour la surveillance et la maintenance de l'homologation, pour n'en citer que quelques-uns. Pour traiter de ces sujets qui ont une importance dans la vie réelle, on doit se doter des outils appropriés. Les mesures ne vont plus suffire, il faut maintenant aller plus vite, plus loin. Mais heureusement que ces mesures ont été faites par nos prédécesseurs parce qu'elles ont permis de découvrir les relations qui, comme par magie, permettent d'avoir les données sans les mesurer. Ce travail des prédécesseurs s'appelle la modélisation mathématique et s'écrit par des équations avec des concepts abstraits. C'est de la modélisation mathématique. À ce propos, tant pour la modélisation mathématique et la simulation numérique à laquelle la modélisation conduit, j'ai parlé de magie parce qu'on fait apparaître des valeurs de données sans les mesurer. Mais on sait bien que derrière la magie, il y a surtout beaucoup de connaissances, de compétences, de travail, de collaboration, de la connaissance scientifique faisant intervenir plusieurs disciplines, plusieurs spécialités, chacun dans sa discipline. J'ai déjà évoqué l'interdisciplinarité pour le poisson dans l'eau. Mais pour aborder ces problèmes appliqués, il est fondamental que les sciences communiquent entre elles, qu'elles se parlent et s'enrichissent. C'est en particulier ce que nous essayons de faire dans le cadre du projet Synergie, qui réunit donc des mathématiciens, des chimistes et des informaticiens. Alors, on va commencer les mathématiques, donc il est peut-être temps de bloquer les portes pour que personne ne sorte. On va parler de magie, et donc essayer d'avoir suffisamment compris les choses pour essayer de mettre en relation les quantités qu'on veut mesurer par rapport à leurs variations. Alors ça peut être au niveau le plus simple où on a l'équation du transport. L'équation de transport qui dit que la variation en temps est éventuellement liée de façon très simple, et là c'est simplement proportionnel à la variation de vitesse, et qui dit que U de X et T, c'est U0, la condition initiale, de X plus CT. C représente ici la vitesse du phénomène, et c'est le moment de se souvenir de l'interdépendance des données en espace et en temps. Ce qui se passe ici maintenant, c'est ce qui se passait en amont, un peu auparavant. Tout le monde a cela bien en tête, jusqu'à l'agneau de la fable qui, devant le loup, déclare « que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent et en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. » L'agneau avait compris, le loup, lui, cherchait des noises pour d'autres raisons sans doute. On a aussi l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur qui exprime la variation par rapport au temps de la température, par exemple, qui est liée à la courbure de la quantité d'intérêt. Par exemple, là où il fait le plus chaud, la température va baisser parce que le Laplacien, le D Laplacien de U qui est écrit ici, est négatif. Et là où elle est plus basse, eh bien, elle va augmenter parce que le Laplacien est positif. Donc le DU sur DT, la variation va être positive. Un autre modèle régit le comportement des fluides, par exemple celui de l'eau ou de n'importe quel fluide, qui est représenté par les équations de Navier-Stokes. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On exprime tout d'abord dans la deuxième partie le fait que le fluide est incompressible, c'est-à-dire si vous le mettez dans un ballon et que vous appuyez sur le ballon, eh bien, le ballon éclate ou alors il va se déformer énormément, mais il ne va pas se comprimer comme s'il y avait de l'air dedans. Et la première équation désigne le bilan de quantité de mouvement, où ρ et nu désignent la viscosité cinématique du fluide. Et ce sont donc la densité et la viscosité cinématique du fluide, et ce sont donc des paramètres du modèle qui permettent de distinguer un écoulement d'eau et un écoulement de miel, par exemple. Et donc, on peut se réjouir et contempler des écoulements d'eau à l'occasion. On a aussi l'équation de Poisson, qui exprime la manière dont une source, une charge électrique, génère un champ de potentiel électrique V autour d'elle. Elle relie le Laplacien du potentiel à la densité de cette source. On a aussi l'équation des ondes et l'équation de Schrödinger. Oui, celui-là même du chat, qui décrit l'évolution temporelle de la fonction d'onde psi en fonction, sous l'effet de son énergie cinétique, qui est exprimée par le Laplacien et un potentiel noté grand V. Il est important de noter à ce stade que ce sont les mêmes opérateurs, l'opérateur laplacien, delta, l'opérateur de dérivée en temps, d sur dt, l'opérateur de convection, qui ont été combinés pour faire différents modèles. Pour comprendre un petit peu ce que c'est que la diffusion, vous avez sans doute compris ce que c'était la diffusion avec mon histoire de l'agneau et du loup, pour comprendre ce que c'est que la diffusion, si j'ouvre ici une bouteille de parfum puissant, petit à petit, l'odeur va arriver au premier rang, puis atteindre le second, puis atteindre le troisième, etc. Et va remplir toute la pièce. Pour la convection, ce qui peut se passer, c'est si je mets une autre bouteille de parfum avec un ventilateur derrière, eh bien, les premiers qui vont sentir, ça va être les gens qui sont là-bas, et il est fort à parier que ici, les gens vont sans doute pas sentir grand-chose. Et donc, c'est la différence entre la diffusion et la convection. La diffusion n'a pas besoin d'un courant, elle avance par transmission élémentaire et finit par lisser l'information initiale, voire la déformer si chaque relais rajoute à son propre bruit. J'ai en tête du Barbier de Séville de Beaumarchais, c'est d'abord rumeur légère, un petit vent rasant la terre, puis doucement, vous voyez calomnie se dresser et s'enfler en grandissant. Le mal est fait, il chemine, il s'avance, de bouche en bouche il est porté, puis rinforzando, il s'élance. Vous savez qu'aujourd'hui, la circulation des informations et plus encore des désinformations et des rumeurs empruntent des voies nouvelles, en particulier celles des réseaux sociaux. Le mécanisme général reste proche, une propagation de proche en proche, mais la proximité n'y est plus géographique. Elle est définie par la structure des relations de communauté, voire même des algorithmes selon une géométrie tout autre. Cela vaut particulièrement pour certaines rumeurs complotistes qui bénéficient parfois, on pourrait se dire, de la platitude de la Terre pour prospérer d'autant plus vite. Comprendre, modéliser et analyser cette géométrie et cette topologie des échanges est aussi un travail de mathématicien, évidemment en étroite collaboration avec les spécialistes des autres disciplines, et là je pense au SHS. Au fond, on retrouve les mêmes ingrédients que ceux évoqués plus tôt, une notion de propagation, de proximité, et la mécanique est importante à analyser. Alors, ce qu'il est important de dire à ce niveau-là, c'est que ce qu'on aimerait modéliser pour représenter la température, la vitesse, le comportement de certains matériaux, Pour bien le représenter, il faudrait aller au niveau atomique. Et au niveau atomique, utiliser les équations de Schrödinger, qui sont adaptées pour étudier le comportement des molécules. Mais elles sont évidemment inadaptées pour représenter des phénomènes macroscopiques, comme l'essentiel de ceux que j'ai cités précédemment. Comme il y a plus que 10 puissance 23 atomes dans n'importe quel objet de taille raisonnable, on comprend facilement qu'à cette échelle, le modèle de Schrödinger ne peut pas être utilisé pour une simulation. Le modèle qu'on doit utiliser porte des objets macroscopiques, oublie les détails. De fait, un modèle n'est pas le réel, c'est un instrument pour donner des images de la réalité. À la manière des miroirs du XVIIe siècle, avant les grandes glaces de Versailles, il ne renvoie pas une image mensongère, mais une image imparfaite, marquée par des défauts propres, des hypothèses, des simplifications, des paramètres. On n'y voit jamais le monde directement, seulement l'image que nos hypothèses savent reproduire. Alors, ces modèles, une fois qu'ils ont été proposés, il faut les étudier. Parce qu'on n'est plus du tout dans la réalité, on est dans un monde de mathématiques pour lesquels ces modèles représentent quelque chose qu'on voudrait mesurer, mais dans un premier temps, il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ce modèle va avoir une solution unique ? Pour la plupart des phénomènes dont on a parlé, quand on mesure quelque chose, on obtient une mesure de température, qui peut-être va varier au cours du temps, mais en tout cas, en un point donné et en un temps donné, il n'y a qu'une seule valeur qui est donnée, de même pour la vitesse d'un fluide. Et donc, pour nos modèles, il nous faudrait aussi cette chose-là. Il faut aussi plein d'autres choses, des régularités, parce qu'on ne veut pas de gribouillis, on voudrait aussi des stabilités. Alors, je n'ai pas le temps d'aborder tous ces problèmes-là parce que le temps passe et de toute façon, ça n'est pas l'objet de la complexité qui m'intéresse. Le modèle n'est qu'un reflet de la réalité et donc on va vouloir le simuler pour le comprendre. Il est donc temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. C'est à ce niveau que la complexité intervient. Et c'est celle dont je vais vouloir réduire la complexité, mais pas à n'importe quel prix. On a vu que les solutions des modèles qui nous intéressent représentent des quantités numériques d'intérêt, potentiellement mesurables en des points et au cours du temps. Comme j'ai précisé aussi, ces quantités dépendent des valeurs alentours et des valeurs qui peuvent avoir été prises auparavant. On a donc compris que ce n'est pas une valeur isolée qu'on veut vouloir représenter quand on fait de la simulation numérique de modèles, mais on est intéressé par les courbes et les surfaces dont j'ai parlé précédemment. De façon générale, des variétés associées à ces quantités d'intérêt. Alors, on s'abstrait à la réalité, soit parce que ce qui nous intéresse donc, c'est des courbes et des surfaces. On s'abstrait de la réalité parce que la réalité n'existe pas encore, ou parce que la réalité est inaccessible, ou parce que ça coûterait trop cher. La plupart du temps, les modèles n'ont pas de forme analytique, et donc la seule façon d'aborder la recherche est de passer par une approximation du modèle point par point, et en tous les points qui nous intéressent. Rappelez-vous le profil du poisson. Avec le profil du poisson, en connaissant la position de certains points, on a été capable d'identifier un poisson. Et là, pour ce qui est de la simulation des modèles, on a différentes méthodes que je ne vais pas détailler. Ce sont les méthodes que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont les méthodes d'éléments finis, de volumes finis, de différences finies, les méthodes spectrales, etc. Il y a aussi, pour résoudre les problèmes, des algorithmes, des méthodes qui sont soit des méthodes directes, soit des méthodes de gradient, soit des méthodes multigris, ou des méthodes de décomposition de domaine. Ce qui est important maintenant de comprendre, c'est combien ça coûte. Alors par exemple, pour mesurer la température dans cet amphithéâtre, cette fois-ci avec un modèle, ça serait peut-être d'ailleurs intéressant de mesurer l'augmentation de la température due au fait que vos cerveaux commencent à s'échauffer. Cet amphithéâtre qui a donc fait 25 mètres sur 25 mètres environ, si je voulais mettre 100 points dans chacune des directions, la direction X, la direction Y, la direction Z, si je mettais 100 points par direction, ça fait déjà 1 million de points. La magie de la découverte de ces valeurs en tous ces points va s'opérer en un nombre d'opérations de l'ordre de la dizaine de millions. Pour 1 million de points, il faut une dizaine d'opérations, et je suis très faible là. Et si on s'intéresse à un phénomène dépendant du temps et qu'on veut représenter l'évolution, il va nous falloir 100 images par seconde. Alors, est-ce qu'on est capable de faire 100 images par seconde avec 10 millions d'opérations ? Eh bien, ça représente déjà plusieurs gigaflops d'opérations, s'il faut un ordinateur gigaflopique, à condition qu'il ne fasse que ça et à condition aussi qu'on accepte cette approximation parce que les mailles si j'en ai 100 dans cette direction, elles font à peu près 20 à 30 cm. La simulation coûte cher, donc très cher. Et les capacités des ordinateurs ont explosé. On n'est plus à du gigaflopique, mais du pétaflopique. Mais néanmoins, avec l'augmentation des capacités des ordinateurs, sont arrivées des volontés nouvelles d'utiliser la simulation, en particulier pour le contrôle de processus. Alors pourquoi est-ce que ça coûte de plus en plus cher ? Parce qu'on s'intéresse à des phénomènes plus complexes, on demande de plus en plus de précision, les domaines d'études sont de plus en plus grands et les phénomènes sont de plus en plus couplés. On va coupler des structures avec de la thermique, avec des écoulements fluides. Donc, il est temps de récapituler. D'un côté, on a la réalité, d'autre part, les modèles et la simulation des modèles. On a donc, a priori, des sources d'erreurs qu'il va falloir certifier pour essayer de qualifier la qualité des simulations numériques. On a deux sources d'erreurs, l'erreur du modèle et l'erreur due à les simulations du modèle. On aura bien travaillé si les données simulées correspondent aux valeurs exactes qu'on pourrait mesurer. Alors, on a l'erreur du modèle, j'ai dit, et ça c'est en discutant avec les spécialistes du sujet. La seconde source d'erreur, c'est l'erreur de simulation. Quand on a le modèle, on voudrait approcher sa solution, la solution exacte dont on a démontré par ailleurs l'existence, l'unicité, la stabilité. Alors, à ce stade-là, il y a deux types d'erreurs. Il y a les estimations d'erreurs a priori et les estimations d'erreurs a posteriori. Les premières disent, si je mets deux fois plus de points dans chaque direction, comment va se comporter l'erreur ? Cette erreur de simulation, est-ce qu'elle va être divisée par deux si je mets deux fois plus de points ? Ou parce que dans chaque direction, j'ai mis deux fois plus de points, donc j'ai multiplié par 8, est-ce que l'erreur va être divisée par 8 ? C'est une question importante. Et c'est la question à laquelle répondent les estimations a priori. Les estimations a posteriori, elles, permettent de qualifier le calcul. Sans connaître la solution exacte du modèle, on est capable de dire quelle est l'erreur, la différence entre la solution approchée et la solution exacte du modèle, par une quantité qui est calculable. Et c'est ça qui est important, ça doit être calculable au même coût que le calcul qui a été fait pour évaluer le modèle. Les estimations a posteriori permettent donc de qualifier la qualité de l'erreur, et si on n'est pas content avec cette erreur-là, elles permettent de nous dire où est-ce qu'il faut mettre plus de points, plus de mailles, comme par exemple à cet endroit où il y a un effort de contrainte et qui fait que, pour bien le capturer, il faut beaucoup plus de points. Il y a beaucoup de théories mathématiques là-dessus et je ne vais peut-être pas vous en parler. Par contre, on va aborder le sujet de la réduction de complexité. Alors, on a compris qu'on a un modèle, F, on a des paramètres, mu, et on veut résoudre cette équation F de U de mu est égal à 0, où U est la solution qui nous intéresse. Ça peut être la température, ça peut être la vitesse, ça peut être la pression, ça peut être plein d'autres choses, un champ électrique. Mu représente ici les spécificités de la situation. Il y a là-dedans tout ce qui caractérise la taille, la façon dont sont chauffées les choses, la perte de chaleur. Pour le fluide, ça sera la précision si le fluide c'est de l'air, c'est de l'eau, c'est de l'huile, c'est du miel. Conceptuellement, il y a beaucoup de valeurs de mu possibles et donc beaucoup de solutions. Peut-être pas des solutions qui existent toutes parce qu'on peut choisir des valeurs de paramètres mu ne correspondant pas à des réalités. Mais on a plein de solutions possibles. Et on a vu que ces solutions-là, dans le cadre des températures, dans le cadre des courbes qui étaient les veines de bois, elles pouvaient se combiner pour approcher d'autres veines de bois. Donc l'idée de la réduction va être de chercher, pour ce problème-là, pour ce problème qui s'écrit f de u de mu est égal à 0, la solution pour un nouveau paramètre, non pas from scratch, mais comme combinaison linéaire de solutions qui auront été préparées, calculées précédemment. Alors, ce modèle vient d'une idée très ancienne qu'on a, avec mon collègue Tony Patera, améliorée, mise au goût du jour. C'était des idées qui dataient des années 1980, voire même peut-être avant, comme Knorr, Peter, Porsching, Reinbold et Fink. Donc, à ce niveau-là, vient la notion de offline-online. Je vous ai dit qu'on avait besoin de solutions très précises qu'on allait combiner. Ces solutions très précises, il faut les calculer. Et là, ça coûte cher. Donc, c'est des choses qu'on fait 6 mois auparavant, ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat des calculs pour une nouvelle valeur de mu, pour une nouvelle valeur du paramètre, comme combinaison, justement, de ces choses qui ont été calculées précédemment. Donc, offline, on va calculer pour mu1, mu2, mu10, peut-être, les solutions exactes. Ça coûte très cher. Ça peut demander des jours et des jours, des semaines, pour calculer U de mu1, U de mu2, U de mu10 avec une bonne précision. Et online, aujourd'hui, je vais approcher la solution U de mu comme une combinaison, comme j'ai combiné tout à l'heure les courbes dans les veines de bois, en prenant U de mu1 et le multipliant par un réel alpha 1 plus alpha 2 U de mu2 plus alpha 10 U de mu10. Et pour arriver à calculer les bons paramètres alpha 1, les bonnes composantes alpha 1, alpha 2, alpha 10, eh bien, je vais minimiser la valeur de f du modèle pour la valeur particulière de mu en ce point-là. Donc, cette somme de 10 valeurs qui correspond à 10 coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 10, donc 10 nombres réels à trouver, va être obtenue en minimisant la norme de cette fonction f qui correspond au modèle et qui doit être à 0 pour définir la solution. J'ai bien sûr la possibilité d'avoir des erreurs a posteriori. Vous avez compris que c'était des choses importantes en analyse numérique. Quand on faisait une simulation, on voulait être sûr que le calcul était précis. Et les calculs en erreur a posteriori, basés sur l'évaluation du résidu, c'est-à-dire la taille de l'écart de f calculé en cette somme pour les coefficients alpha i optimisés, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit? Si c'est petit, on se rapproche de la solution, puisqu'on cherche quelque chose qui doit être égal à 0. Alors, je vais vous présenter quelques exemples. Là, c'est quelque chose qu'on a travaillé en collaboration avec Einar Rönnqvist et un de ses étudiants, où on s'intéresse à des écoulements dans des conduits un peu complexes. Alors, on remarque que ces conduits, un petit peu comme un boucher, on va les découper en petits morceaux, des morceaux qui vont être des tubes ou des morceaux qui vont être des bifurcations. Et ces bifurcations, on va les manipuler. On va les manipuler avec le fluide qui est à l'intérieur, chacun avec leur solution, afin de faire des compositions et faire des approximations. Donc, on calcule des solutions dans des tubes, on calcule des solutions dans des bifurcations, on remplit tout ça et on compose pour obtenir avec 9 modes, comme il est indiqué ici, avec 9 modes dans la partie droite, dans la partie tube qui est ici, et 9 modes dans la partie bifurcation, dans chacune des bifurcations, on obtient déjà une erreur sur les vitesses de 10 puissance moins 3, c'est-à-dire de 2 millièmes. C'est vraiment très peu comme erreur, c'est donc une très très bonne approximation, avec simplement 36 modes au total. Vous voyez la réduction de complexité, alors qu'il faudrait des millions de valeurs pour avoir une bonne approximation de cela. Et on peut améliorer l'approximation en augmentant dans chacun des tubes et des bifurcations la quantité d'informations, c'est-à-dire le nombre de fonctions qu'on met à l'intérieur. Ce qui est remarquable aussi, c'est que là, le fluide allait dans une direction. Il allait, par exemple, d'ici vers le bas ou du bas vers le haut. Et ici, j'ai introduit une coarctation des carotides où vous voyez que cette partie-là, c'est un petit peu refermé. Et on essaie de regarder la solution, là aussi en comparant avec une solution très très fine, et on s'aperçoit qu'avec très très peu de modes, on arrive aussi à des précisions qui deviennent très très faibles. Là, c'est un domaine beaucoup plus compliqué qu'on a fait avec Tony Patera, Tommaso Taddei et Lambert Fick, où on a regardé les équations de Navier-Stokes, c'est la cavité entraînée, et on est dans un régime turbulent, et là, on a montré qu'avec une quarantaine, cinquantaine de modes, on est capable de reconstruire l'énergie cinétique turbulente du système, donc avec très très peu de modes. OK, donc les données plus les modèles pour suppléer aux erreurs. On a plusieurs possibilités. Les modèles, on a essayé de les simuler pour les comparer aux données. Mais les modèles sont imprécis. Donc, le modèle est imparfait. Et puis, les données sont souvent entachées d'erreurs parce que les outils qu'on utilise pour faire ces mesures sont souvent entachés d'une barre d'erreurs. Et donc, aucun ne représente la réalité. Ça rentre dans le domaine de l'assimilation de données qui vont nous permettre de combiner les deux, le modèle imparfait exprimé en base réduite et les données entachées d'erreurs pour être capable d'améliorer la connaissance du milieu qui nous entoure. Et ça, ça a donné lieu aux méthodes Empirical Interpolation Method, Generalized Empirical Method et PBDW qu'on a introduit aussi avec mon collègue Tony Patera. Elles permettent aussi quelque chose d'important qui est l'optimisation du placement des données pour essayer d'avoir une meilleure solution possible, une meilleure représentation de la solution possible. Et ça, c'est lié au problème de l'interpolation, qui, les mathématiciens de la salle le connaissent certainement, est un problème très important, savoir comment on met les points pour être capable d'interpoler de façon la plus précise possible. On peut aussi prendre en compte le fait qu'on a différents capteurs pour mesurer. Il y a des capteurs qui peuvent être précis, et il est important de les mettre aux endroits les plus pertinents, et des capteurs qui sont un peu plus grossiers, qui vont donner une information avec des erreurs, mais qu'on est capable de mettre dans des endroits où l'erreur va être prise de façon moins importante. C'est quelque chose qu'on a développé dans le cadre de la thèse de Hélène Gong, encadrée à EDF avec toutes ces personnes, où on s'est intéressé à la répartition de la puissance dans un cœur de réacteur et où, avec justement l'optimisation des points et la recomposition des données, on a été capable de placer les capteurs à des endroits, un, possibles, deux, optimaux, et qui ont permis de remonter à des valeurs de données très précises en un temps, en utilisant 5 ou 15 fonctions de base, où l'erreur était très très faible et avec un calcul qui est très rapide, qui peut donc être fait pratiquement en temps réel. Je vais parler maintenant rapidement, dans le temps qui m'est donné, très rapidement d'une modélisation qui devrait vous parler. C'est le problème de la propagation des épidémies. Alors, vous avez tous sans doute entendu parler des modèles SIR, des modèles compartimentaux, où on doit expliquer comment les différents compartiments des personnes saines, qui ne sont pas été malades, des personnes qui sont actuellement malades et des personnes qui sont remises, guéries ou malheureusement éventuellement décédées. Comment on explique que les S sont contaminés? Eh bien, les sains sont contaminés quand ils rencontrent des gens qui sont malades. Et donc, plus il y a de S, plus il y a de contacts, plus il y a de I, plus il y a de contacts, et donc les contacts sont représentés par un produit de la quantité de personnes qui se trouvent dans le compartiment des sains, et par I, la quantité de personnes qui se trouvent dans le compartiment des I. C'est un modèle très simple où la variation des sains, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le compartiment des malades, est justement liée à ces rencontres avec un facteur négatif. Ils sont contaminés donc en rencontrant les I, et donc on a le DS sur DT qui vaut moins bêta SI, et bien évidemment ceux qui sortent du compartiment S vont rentrer dans le compartiment I avec un plus bêta SI, moins gamma I qui représente le temps que la maladie met à se faire guérir, et donc ceux qui sortent du compartiment I vont rentrer dans le compartiment des remis. Et donc si on simule ça au cours du temps, on voit que les saints vont tous devenir malades à un moment. Voilà la quantité des malades. Là, on a une saturation des hôpitaux, et ça, c'est les gens qui sont remis. Si on diminue les contacts, eh bien, on a, vous voyez par rapport à cette courbe-là, on a diminué les contacts à partir de ça, ça veut dire qu'on a fait un confinement, et vous voyez que les hôpitaux représentant les hôpitaux ne sont plus saturés, puisque le nombre d'infectés, représenté par la courbe rouge, a nettement diminué. Alors, ce modèle est beaucoup trop simple, et donc Pierre Magal, en particulier, avec son collaborateur, a proposé un modèle un peu plus important, relativement simple quand même. Il a été le premier quand même à utiliser le fait que, dans la maladie du SARS-CoV-2, les infectés n'étaient pas tout de suite malades, mais par contre, ils étaient contagieux. Et donc, on pouvait rencontrer des gens, avoir des contacts avec des gens qui étaient infectés, et soit visiblement malades, ou soit qui étaient non malades, mais néanmoins porteurs du virus. Et donc, la rencontre devait être faite aussi en tenant compte du fait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas identifiés comme étant malades. Un modèle beaucoup plus compliqué a été proposé par Pierre-Yves Boël et Victoria Colizza, dans lequel, vous voyez, on a plein de compartiments. Alors ça, c'est un vrai modèle d'épidémiologistes, des gens qui savent ce dont ils parlent, contrairement à moi qui ne suis que mathématicien. Et donc, vous voyez que ce modèle est très intéressant, très mécanistique, et permet de comprendre réellement comment la propagation de la maladie se fait. Mais vous voyez aussi qu'il fait intervenir un nombre de paramètres énormes, des paramètres qui sont inconnus et qui vont dépendre chaque fois des maladies et qu'on est absolument incapable de mesurer parce qu'on n'a pas d'outils pour mesurer tous ces coefficients qui interviennent ici et dans les équations qui sont modélisées pour passer d'un compartiment à l'autre. Par exemple, ici, c'est le temps quelqu'un qui a été infecté va devenir contaminant. Et quand il est contaminant, quand est-ce qu'il va avoir les premiers symptômes, qui vont être des symptômes sévères, très sévères, auquel cas il va aller à l'hôpital directement, ou alors quelqu'un qui va être asymptomatique. Donc tous ces coefficients qui sont là représentent très bien la mécanistique, mais sont impossibles à mesurer, surtout en début d'épidémie. Alors c'est pour ça qu'avec Olga Mulla, Thomas Boivot et Atman Bakta, on a proposé une alternative à ces modèles compliqués, dans lequel on est revenu au modèle SIR, mais dans lequel on a proposé que les coefficients bêta et gamma qui étaient constants tout à l'heure et que je vous avais fait varier en disant que bêta pouvait diminuer au moment du lockdown, du confinement, le bêta ici va être ajusté tous les jours. Il va être ajusté tous les jours pour être capable de représenter la réalité. Et donc, chaque jour, on calcule les coefficients pour représenter au mieux la progression de l'épidémie qui va être liée au fait que la simulation des données ici avec les valeurs de bêta et les gamma qui vont être intuitées vont être optimisées pour s'accorder aux données, les data, les réelles data. Alors, on a un théorème. Au moins, vous n'auriez pas perdu votre temps. Vous aurez un théorème dans la journée. On suppose que si la population totale s'appelle N, si T, c'est la durée de l'observation, pour toute évolution, n'importe quelle maladie dans laquelle on a des données tous les jours, et si en tout temps, on ne perd pas de bonhomme, c'est-à-dire S plus le nombre d'infectés, plus le nombre de remis, dans lequel on met les morts éventuellement dus à l'épidémie, reste constant. C'est-à-dire que dans la période, on ne considère pas les naissances et les morts naturelles, ou plus exactement, on considère qu'elles s'équilibrent. On suppose que S, le nombre de saints, va être décroissant. R, le nombre de remis, va être croissant. C'est vraiment ce qui se passe en début et assez longtemps dans l'épidémie. Dans ce cas-là, on peut démontrer qu'il existe un unique minimiseur. Et en fait, ça s'appelle un théorème, on l'appelait plutôt proposition dans le papier correspondant, parce que c'est vraiment très simple. Les valeurs de bêta et de gamma qui optimisent sont obtenues par cette relation que vous pouvez tout de suite comprendre. Parce que ici, j'ai bêta de T, ce qui est normalement inconnu, alors que je connais normalement les données d'infectés, les données de saints, et je connais donc la variation la vitesse à laquelle les saints, l'ensemble des saints décroît. Et donc, bêta, c'est simplement, on passe toutes les quantités connues de l'autre côté, donc bêta est tout à fait identifié. De même, vous avez gamma. En fait, gamma pourrait être obtenu ici en divisant dr sur dt par i. Et donc, c'est un théorème très simple. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé théorème. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très utile parce que maintenant, on peut, pour tous les modèles correspondants aux modèles proposés par Magal et par Boel et Kolidza, ce sont des simulations qu'on peut faire, des simulations avec des paramètres qu'on ne connaît pas mais qu'on peut ajuster. On peut faire plein d'épidémies, des vraies, des fausses, des virtuelles. On fait tout ça in silico. Ça nous fait des milliers d'épidémies possibles sur lesquelles on va calculer, à partir de ces données virtuelles, les valeurs de bêta et de gamma. On calcule les valeurs associées et donc on en déduit un ensemble de solutions. Et cet ensemble de solutions, c'est un ensemble de courbes, les mêmes courbes qui sont sur mon morceau de bois tout à l'heure. Donc on va en extraire celles qui sont les plus représentatives et on va utiliser celles-là ensuite pour essayer d'approcher. Donc celles-là, je les ai appelées bêta I et gamma I, I allant de 1 à N. Et on essaie de recombiner celles-là pour être capable de faire de la prédiction. À partir de données jusqu'au 1er avril, on est capable de prévoir, donc on ne connaissait pas ça, hein. Bien sûr maintenant on le connaît, d'accord, mais supposez qu'on soit le 1er avril. La réduction de complexité que je vous ai proposée là nous donne la courbe bleue qui est ici, la courbe bleue qui ne se base que sur les données jusqu'au 1er avril. Et avec 14 jours, si on les compare aux données qui sont arrivées par Santé publique plus tard, on a quelque chose de tout à fait cohérent. Et c'est pareil pour le 7 avril sur 14 jours. Évidemment, ce n'est pas exact, d'accord ? Mais au moins, on sait qu'on va atteindre un pic un petit peu plus tard. Et là encore, et là encore. Et sur la deuxième vague, on connaît la suite et on ne l'utilise toujours pas. Et on voit que ça marche aussi. Cette méthode-là donne un très bon comportement sur 14 jours plus tard. D'accord ? Donc, ceci permet aussi, dans le cadre de parler de l'acquisition des données. Un problème important en sciences mathématiques, appliqué comme je le fais, c'est d'avoir accès aux données pour être capable de comparer par rapport aux solutions exactes. L'accès aux données est important, c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est quelque chose de vraiment très difficile, quelque chose qu'on n'a pas pu faire pendant la donnée de la propagation de l'épidémie. Et c'est pour ça qu'on a bâti le projet Aubépine, dont Thomas Römer a parlé brièvement en début d'introduction, où on est allé chercher dans les eaux usées des informations sur la présence du virus de SARS-CoV-2. On l'a détecté, on l'a quantifié, avec tout un groupe interdisciplinaire dans lequel, je répète, je n'étais que le mathématicien, ce qui nous a permis de proposer des simulations réalistes de ce qui se passe dans les eaux usées. Alors, je n'ai pas le temps de présenter tout ça, on pourra en parler éventuellement plus tard, mais ça nous a permis de 2020 jusqu'à 2022 de présenter des courbes d'évolution de l'épidémie à l'intérieur de ce qui se passait dans les eaux usées. Ce qu'on a été capable de mesurer jusqu'en 2022 sur 200 stations avec les données d'indicateurs individuels qui pouvaient être proposés par Santé publique France. Et on continue sur quelques stations, par exemple sur à Strasbourg. On est capable maintenant de proposer ce qui se passe à ces dates-là. Ça, c'était en septembre 2025, mais on continue actuellement à faire ce calcul-là. Et ces choses-là nous permettent aussi maintenant, à partir de bases réduites, d'être capables de faire une prévision de ce qui va se passer dans les 15 premiers jours. Et on voit ici que le modèle, sur un travail en cours avec Nicolas Cluzel et Sylwane de Reboul, on est capable de faire une très bonne prédiction sur laquelle on a une courbe de confusion, un diagramme de confusion qui montre que sur quelque chose comme 7 cas sur 11, on est capable de bien prédire sur 7 et sur 14 jours ce qui va se passer au travers des eaux usées. Alors, y a-t-il des choses encore à découvrir en mathématiques ? Et là, je vais terminer là-dessus. Je vais parler de destruction créatrice parce que on a des modèles maintenant qui sont basés sur l'intelligence artificielle et sur les ordinateurs de quantique, qui sont des nouveaux outils que nous devons utiliser. Nous devons les utiliser parce que ce sont des nouveaux outils très puissants qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais l'enjeu, c'est donc de concevoir des algorithmes hybrides inspirés par ces approches avec des garanties. L'intelligence artificielle, actuellement en tout cas, ne permet pas de donner très facilement des garanties, avoir des stabilités, des erreurs et savoir quoi faire si on veut améliorer la précision. Avoir des critères opératoires permettant, une fois la méthode proposée, de savoir qu'est-ce qu'il faut modifier pour gagner en précision et mieux simuler le phénomène étudié. Donc, on travaille là-dessus. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec Charbel Farhat, avec Albert Cohen, Augustine Somacal et actuellement avec Hassan Balout dans le cadre de sa thèse encadrée par Christophe Prudhomme et Joubin Aguili, où on va représenter, non plus comme je l'avais présenté tout à l'heure, on va représenter un développement très très large dans lequel on va avoir énormément de modes qui vont être ajoutés parce que c'est important pour avoir une bonne précision, mais dans lesquels, parce que mu est de dimension, disons, 10 comme ici, on va avoir simplement les premiers coefficients qui sont vraiment des degrés de liberté, et par l'intelligence artificielle, on va apprendre offline la forme de ces coefficients en fonction des premiers. Donc, pour les ordinateurs quantiques, et là-dessus, on est aussi capable d'avoir des estimateurs a posteriori. Pour les ordinateurs quantiques, j'en réfère à la séance de travail qui a eu lieu l'été dernier, en 2025, sur le SEMRAX, qui a permis de voir les ordinateurs quantiques. Donc, ce sont des nouveaux outils qu'il nous faut apprendre à maîtriser. Il faut travailler donc pour cela en collaboration avec des gens qui manipulent les ordinateurs quantiques et qui permettent d'obtenir de nouveaux algorithmes. Il faut changer totalement la façon de voir les choses, puisque dans un ordinateur quantique, on ne peut pas faire une opération aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Donc, il faut changer totalement le paradigme. Les courbes qu'on va manipuler, on ne va pas les manipuler de la même façon. Je ne suis donc que mathématicien. Il faut donc travailler en collaboration avec les autres. Il faut prendre le temps de se retirer, parce que de temps en temps, les concepts mathématiques peuvent être très difficiles. Il y a des problèmes que je me suis posés il y a 15 ans sur lesquels je n'ai pas encore de réponse. Il faut avoir le temps de se retirer, mais aussi être capable de donner des réponses adaptées, multicritères, et parmi les critères nombreux qu'il peut y avoir, il y a le temps de restitution. Les réponses adaptées peuvent tenir compte du fait que la réponse doit être donnée pour un problème industriel dans le mois, dans les 6 mois ou dans l'année à venir. Alors que pour avoir la meilleure des meilleures réponses, la réponse optimale, il faudrait peut-être 10 années. Donc donner des réponses adaptées, et ça peut se faire grâce non seulement à la collaboration, mais aux collaborateurs, les ingénieurs compris. Et je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.